De fait, René de Pestre occupe en matière de race une position particulièrement originale, constituant l'un des points les plus stimulants de sa pensée, position qui a été véritablement révélée lorsque paraît en 1980 son essai « Bonjour et adieu à la négritude ». Cet adieu à la négritude sonna comme une provocation dans la mesure où elle critiquait et dépassait une certaine doxa identitaire, un moment où nombre d'esprits, chez les anciens opprimés du projet de couleur, paraissaient installés dans une posture de rétorsion à travers laquelle l'ancien stigmate était revendiqué comme signe d'appartenance au prix d'une récupération dans l'autre sens de la vieille segmentation raciale. Il s'agissait pour lui d'une position qui n'était pas très facile à assumer quand on considère le contexte profondément racialisé des sociétés post-esclavagistes, notamment celle d'Haïti dont il est issu, qui enferme les individus dans des catégories mentales dont il n'est pas aisé de s'évader, même lorsqu'on s'efforce d'inverser les termes de leur polarisation. C'est là un thème véritablement au centre de ses obsessions intellectuelles. Il y revient de manière récurrente, se payant même le luxe d'interrompre sa trame narrative pour un intermède théorique dans son roman Adriana dans tous mes rêves. Haïti est de plus pour De Pestre le pays où l'on peut le mieux suivre les aventures de la négritude, parce qu'il est d'abord l'endroit du monde où, comme l'a dit Aimé Césaire dans son cahier d'un retour au pays natal, la négritude s'est mise debout pour la première fois. Mais c'est aussi le lieu où, hélas, elle a contribué à l'idéologie dont s'est nourrie l'une des plus monstrueuses tyrannies de l'histoire contemporaine, ce qu'on appelait le noirisme, tel que Duvalier et ses complices l'ont appliqué en Haïti, s'est ainsi transformé pour lui en une forme antillaise de fascisme, un néo-racisme totalitaire dont les principales victimes ont été les millions de paysans et de travailleurs noirs d'Haïti. Qui a-t-il pu écrire dans une notice liminaire à une réédition en 2005 de ses premiers recueils de poèmes? Qui, dans les rangs révolutionnaires d'un mai 68 haïtien, il fait bien sûr là allusion à l'insurrection de 1946, qui pouvait prévoir jusqu'où irait la récupération raciale, coloriste, négritaire, ethnique de notre mouvement de civilité démocratique? Et dans le sens contraire, la révolution cubaine, fidèle à la pensée de José Martí, voulait transcender les catégories raciales, et René de Pestre a largement partagé ce rêve, associé pour lui à celui de révolution, comme en témoigne sa réponse dans les années 1950 au dissident cubain afrocentriste Carlos Moore. Et pour cela, d'ailleurs, il a toujours, disons, reconnu cet apport de la révolution cubaine. Dès lors, René de Pestre a insisté avec force sur le caractère mystificateur du concept de négritude, quand ce concept nie l'évidence de la diversité des conditions matérielles d'évolution et considère la sensibilité créatrice des peuples noirs comme un bloc culturel homogène, intemporel, interchangeable dans ses manifestations expressives. Il met au contraire l'accent sur le fait que la couleur est un hasard qui s'est transmué en historicité coloniale sous la forme d'un mythe qui est imposé à l'opprimé un drame supplémentaire, lui inculquant l'idée que sa condition était indépassable et que c'est une illusion de la fonder sur une catégorie anhistorique, sur une image fantomatique de l'âme noire. Et il a à ce propos une conversation très serrée avec Aimé Césaire, et Aimé Césaire d'ailleurs se défend très bien en montrant que pour lui, la négritude n'est absolument pas un concept essentialiste, mais que c'est au contraire un concept qui dérive d'une situation historique, donc un concept historiquement daté et qui répond donc à une oppression préalable. Alors par là, René de Pestre s'est situé à l'avant-garde des conceptions les plus avancées en matière d'appréhension du fait racial et dès 1980, année de parution de Bonjour et adieu à la négritude, il en a conscience lorsqu'il écrit « Aujourd'hui, les biologistes eux-mêmes, dans le dernier domaine où la notion de race semblait avoir quelque réalité, la tiennent de plus en plus pour un outil conceptuel à la fois flou désuet et déshonorant. Ce en quoi il était véritablement en avance sur la progression des sciences de l'époque. Et il nourrit sa réflexion de métaphores particulièrement suggestives. Les thèmes qu'il utilise sont pour chacun d'entre eux riches de significations. Mythe, mystification, fausse identité, hiérarchie fantasmagorique, masque, carnavalisation, déguisement ontologique, fétichisation. Ce qu'il dénomme une épidermisation, une somatisation de la réalité sociale, la couleur, la structure du visage, la texture des cheveux étant transmuées en messages sociaux, lui apparaît comme un piège grossier, propre à l'imaginaire du colonialisme, qui s'est superposé à l'heureuse diversité des corps et des cultures, aggravant la situation matérielle et physique, déjà très précaire des opprimés qu'ils subissent par une douleur psychologique. Car la race n'a engendré que la douleur, je le cite, la honte de soi, la solitude, une sorte d'incompréhension suicidaire de soi, pouvant conduire à des issues individuelles, dramatiques, ou à de graves conflits d'identité. Ce qui le conduit d'ailleurs à se méfier de la ruse biopolitique des nouvelles revendications de reconnaissance qui parfois, loin de déstabiliser les constructions raciales, se réinscrivent dans les termes des anciennes et par voie toujours active idéologies de séparation. Sans doute pourrait-il, à la manière de son réalisme merveilleux, interpréter l'intervention hallucinatoire des apparences et de l'essence des hommes comme le résultat d'un complot sorcellaire, un maléfice qui ne demande qu'à être un jour rompu, renouant ainsi avec le rêve de son enfance poétique, de 1945-1946, cambriolé, nous dit-il, par les détrousseurs haïtiens de la race.